France Inter, le 7-9. Intervenez.
Avec Léa Salamé, notre invitée ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous avez la parole, que le dialogue s'ouvre. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Donc, je suis un ancien élu. J'ai fait 3 mandats et je me suis arrêté volontairement. Et je suis un peu irrité par les propos de Monsieur le Président, qui, j'ai l'impression, défend le corporatisme des grands élus, entre autres des élus en général. Je trouve que notre démocratie, entre autres, notre démocratie d'élus au niveau du monde rural, a besoin d'un renouvellement d'élus. Si vous faisiez la moyenne d'âge des élus, vous voyez que ce sont des élus très relativement vieux. Moi, j'ai 74 ans, donc j'étais dans cette affaire. Et je trouve, il ne faut pas faire quelque chose de sec quand Monsieur Larcher dit qu'il faut maintenir les élus, que c'est une atteinte à la démocratie. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut qu'il y ait des renouvellements et il faut alors parallèlement effectivement accompagner, parce que personne ne parle du changement du statut de l'élu. Si on veut que des jeunes s'investissent dans le rôle de maire et qu'ils arrêtent après un peu leur profession, il faut qu'il y ait des indemnités suffisantes pour leur permettre de bien assumer ce rôle. Et s'ils s'arrêtent,
bien
ils
compris.
Sont battus après, qu'il y ait des indemnités indemnités après pour leur permettre de retrouver du travail ou de reprendre leurs activités précédentes.
Merci Jean-Claude, merci pour cette intervention. De très nombreux auditeurs sur les réseaux sociaux, Gérard Larcher, vont dans le même sens. Vous pouvez répondre donc à Jean-Claude.
Je réponds à Jean-Claude, d'abord pour lui dire, renouvellement, 62% des sénateurs, je vais prendre un chiffre, n'étaient pas sénateurs le 1er octobre 2014. Donc, le renouvellement, il se fait. Jean-Claude vise le monde rural. C'est d'ailleurs un vrai sujet. Nous savons qu'à peu près à chaque renouvellement municipal, plus d'un tiers des maires changent. Et souvent parce qu'ils ne se représentent pas. Nous avons beaucoup de territoires. Beaucoup de territoires où il n'y a pas de candidat à la mairie pour former une liste. Le renouvellement, c'est aussi la question statutaire. Et je partage avec lui cette interrogation. Voilà pourquoi au Sénat, la délégation aux collectivités territoriales s'est engagée sur un projet de réforme statutaire, un vrai projet. On en parle depuis des années et il ne se passe rien.
Alors, n'esquivez pas tout de même le fond de la question qui vous était posée. Je la précise avec ces différents tweets. Philbert vous dit « Représentant de la nation n'est pas un métier. Oui à la limitation dans le temps des mandats électifs. C'est une question de respiration de notre démocratie. » Frodon vous dit la même chose. « La liberté des citoyens de choisir leurs représentants dépend directement de l'offre qu'ils ont. Cet argument du non-cumul dans le temps n'est pas entendable. » Monsieur Gérard Larcher est un professionnel de la politique. Avec ce fonctionnement, la démocratie se meurt. Aujourd'hui, en 2018, les pensées et les méthodes doivent évoluer. Le Sénat est éloigné de la société française. Bonne journée. Gérard Larcher.
Je ne crois pas du tout que le Sénat soit éloigné de la société française. Je crois que le Sénat, il est en phase au travers des collectivités locales avec cette société. Ce n'est pas un métier, pardonnez-moi, je vous réponds, mais une fonction. Je voudrais simplement prendre mon cas. Je fais partie des 12 qui exerçons un mandat plus de 3 fois. Je viens d'être élu, il y avait 10 listes qui m'étaient opposées et j'ai eu 5 sénateurs sur 6. Si ce n'est pas la relation de confiance entre les élus municipaux et moi-même, je pense que ça a du sens. Je ne dis pas qu'il ne faille pas renouveler. La meilleure preuve au Sénat, 62% n'étaient pas sénateurs. La meilleure preuve, c'est que je crains malheureusement, prochain renouvellement municipal, qu'il y ait beaucoup de renouvellement par abandon des équipes municipales, écrasées sous le poids des normes, sous le poids de la complexification.
Donc, vous ne voyez pas là, pour reprendre l'expression de notre auditeur, un phénomène de respiration démocratique
naturelle.
La vraie naturelle.
Respiration en démocratie, c'est l'expression des électeurs.
On retourne au standard. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. J'avais juste une petite remarque préalable. Je trouve dommage que le 7-9 n'invite jamais un député communiste. Alors, ma question est la suivante. Le Sénat a le pouvoir d'empêcher la réforme constitutionnelle. jusqu'où ira le bras de fer au point de contraindre le président de faire le choix d'un référendum qui finalement lui laisserait les mains totalement libres.
Merci Sylvie pour cette question, Gérard Larcher.
D'abord, le Sénat a le pouvoir aussi d'adopter, d'adopter ce qui va nous conduire à la modification de la Constitution. Nous ne sommes pas dans une attitude de refus et dans une attitude de négative. Je le dis extrêmement clairement. Voilà la réponse que je peux apporter à l'auditrice.
Donc vous ne jouez pas le blocage ?
Pas du tout.
Léa Salamé ?
Ouverture à la concurrence, fermeture de petites lignes, fin du statut des cheminots. Ce sont quelques-unes des conclusions du rapport Spinetta sur la SNCF. Édouard Philippe fera ses annonces lundi prochain. Mais d'ores et déjà, et c'est la une des Échos ce matin, le gouvernement privilégierait le recours aux ordonnances pour réformer la SNCF. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous soutenez ?
Gérard D'abord, la question de la SNCF, c'est une question majeure d'aménagement du territoire.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
C'est une question majeure pour les citoyens. Et c'est bien une préoccupation de parlementaires proches du terrain. Et pour les sénateurs, c'est majeur. Voilà pourquoi le président de la commission de l'aménagement du territoire a déposé une proposition de loi pour faire évoluer la SNCF. Je l'ai d'ailleurs envoyée au Conseil d'État. J'aurai la réponse du Conseil d'État dans quelques jours. Le statu quo n'est plus possible à la SNCF. D'abord, il y a un montant de dette qui est de 50 milliards. Il y a des résultats médiocres, on le voit bien, y compris sur les lignes à grande vitesse. La SNCF est en train de perdre sa réputation d'entreprise exacte, d'entreprise d'ingénieur. Certaines situations personnelles ne semblent plus justifiées. Et nous avons le rendez-vous de la concurrence. Mais la SNCF, c'est un service public. Et les transports sont nécessaires. On ne peut pas être tout TGV. Et surtout, comme je l'ai lu dans le rapport, d'aller de métropole en métropole. Parce que le questionnement de nos concitoyens, et de Jean-Claude peut-être tout à l'heure, c'est est-ce que l'espace rural est définitivement exclu des modes
donc
de transport collectif.
Donc on vous inquiète, on vous entend inquiet sur la fermeture des petites lignes notamment. Sur la méthode,
mais nous ne sommes pas bloqués.
S'il passait par les ordonnances,
Je pense que nous... Les ordonnances sont faites pour répondre à des situations particulières. Si le Parlement n'est pas sollicité pour débattre d'un sujet aussi important pour l'aménagement du territoire, il y aura un déni de respect de la démocratie parlementaire. Je le dis clairement, on nous entendra sur ce sujet.
Ah, les mots sont très forts ce matin.
Oui, parce que on ne peut pas traiter de ce sujet pour contourner la démocratie.
Une question d'actualité également. Le gouvernement a décidé de ne pas attendre la fin de la trêve hivernale. En ce moment même, et depuis 6 heures ce matin, le gouvernement a décidé de faire évacuer la ZAD de Bure.
La trêve hivernale. C'est qu'il faut en finir avec le non-respect de l'état de droit. Et que je sache, le secteur de Bure n'est pas une zone d'habitat.
Donc vous soutenez ?
Bien sûr que je soutiens l'état de droit.
8h49, on retourne au standard. Bonjour Noël.
Bonjour Monsieur de Morin.
Bienvenue.
Bonjour Madame Salamé. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Écoutez, je suis maire d'une commune de 1200 habitants en montagne, dans les Hautes-Pyrénées. J'ai 51 ans. Et d'entrée, je voudrais dire, je ne suis pas sur le même échiquier politique que Monsieur Larcher.
Mais peu importe au Sénat, vous savez.
Mais c'est un département où l'ORDSE va sûrement lui parler et qui incarne ce groupe. Néanmoins, je veux saluer son sens de l'engagement et son sens de la République. Ma question, elle sera assez simple. Après la loi NOTRe, après quelques désordres et ordres mis dans le mécano institutionnel, quelques questions d'ordre financier sont toujours en cours aussi, sur les dotations et les habitations. Mais le souci que nous avons, nous, les élus locaux, c'est est-ce qu'il y a vraiment la volonté de repousser les élections municipales et d'arriver sur 2021 dans ce que j'appellerais un système à l'américaine où le même jour, on voterait pour le maire, le président de l'Interco, le conseiller général départemental, sinon le conseiller régional.
Merci beaucoup Noël pour cette question. Gérard Larcher vous répond.
Monsieur le maire, je n'ignore pas les difficultés des communes. J'ai moi-même été maire pendant un long moment. Je voudrais dire que je suis pour le respect des dates en démocratie. Il faut vraiment un motif d'intérêt supérieur pour les bouger. Et je pense que les élections municipales, y compris dans bon nombre de villes, sont un espace qui échappe aux seules logiques politiciennes. je suis un homme politique. Et c'est l'occasion d'une rencontre avec une population et un territoire. Et je vous le dis, le seul élu, je le dis aux auditeurs, qui a la confiance majoritaire des Françaises et des Français, c'est le maire. Parce qu'il est, c'est ma formule, à portée d'engueulade. Ça veut dire qu'il est dans le quotidien des gens. Et je pense que nous n'avons pas aucun intérêt à faire une espèce de sigma de toutes les élections, notamment avec l'élection municipale.
Comment souhaitez-vous que les promesses faites aux Corses par le président de la République soient retranscrites dans la Constitution, Gérard Larcher ?
D'abord, le président de la République a été clair à Ajaccio. J'étais présent. Et il a dit un certain nombre de choses très directement. Il a dit, il faut qu'on examine d'abord pourquoi dysfonctionne la loi de 2002. Parce que avant de faire de nouveaux textes, il faut évaluer. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous présenterons 10 ans après ce qu'a donné la réforme constitutionnelle de 2008 au Sénat. Je crois que c'est autour d'un article, c'est un peu technique, 72, que le président de la République souhaite qu'on puisse travailler en le cadrant. J'ai moi-même dit en recevant les élus de la majorité de la collectivité territoriale. Et hier, les élus de la minorité, avec Monsieur Mondoloni, que dans un système cadré, la commission des lois du Sénat examinerait ce point avec attention. Mais je rappelle, la Corse n'a rien à voir avec les anciens départements ou territoires d'outre-mer.
Quelle serait la formulation idoine, d'après vous ?
La formulation idoine ne peut pas concerner que la Corse, mais doit se poser à un certain nombre de territoires dans lesquels il y a des spécificités. Or, on ne va pas dire qu'une île n'est pas son spécificité. On le reconnaît pour quelques îles au large des côtes de la Manche ou des côtes de l'Atlantique.
On retourne au standard. Bonjour Michel, vous nous appelez de Paris 16e arrondissement, donc tout à côté de la maison de la radio. Absolument. Soyez la bienvenue.
Bonjour à tous, je suis une fidèle du 7-9.
C'est gentil.
Monsieur Larcher, comment peut-on défendre l'indéfendable ? Soutenir Laurent Wauquiez ? Les mots ont tout simplement un sens. Il faut une opposition constructive, pas cette droite rabougrie. C'est pour cette raison que nous sommes nombreux à avoir quitté la droite suite au scandale Fillon, bien évidemment, et rejoint la République en marche. Je ne souhaite qu'une chose, tout simplement, c'est que cette droite se crache pour de bon. Il faut absolument du renouveau, tout simplement. J'en ajoute pas davantage.
Merci Michel pour cette question. Gérard Larcher.
Bah, vous en ajoutez pas davantage, vous en mettez déjà un paquet, si je peux me permettre. J'ai tout à l'heure dit que les propos de Laurent Wauquiez, je ne les faisais pas miens. En même temps, je pense que nous ne pouvons pas laisser au centre et à droite un espace qui soit un espace totalement vide, où il n'y aurait pour s'opposer que Madame Le Pen ou son successeur, et de l'autre côté Monsieur Mélenchon. Nous avons donc la responsabilité de construire un projet alternatif. Vous avez choisi de rejoindre la République en marche, respecte votre décision. Moi je pense comme gaulliste, qui a une autre vision, ce qui ne m'empêche pas, non pas d'être un contre-pouvoir destructif, mais un contre-pouvoir positif. Je ne suis jamais un anti-pouvoir, je crois à la démocratie, et la démocratie s'enrichit de différences.
Comment, depuis le palais du Luxembourg, voit-on la bouillonnante assemblée du palais Bourbon, où les gens s'habillent bizarrement, mettent des maillots de foot, sortent des paquets de pâtes, font le spectacle, ça vous laisse de marbre ?
Ça ne nous laisse pas de marbre. Je rappelle simplement, et c'est pas moi-même qui l'ai demandé, mais des collègues de gauche, c'est qu'on doit aussi un respect aux citoyens. Et que ce type d'attitude, dans l'hémicycle, est un type d'attitude qui nous renvoie à des périodes qui nous ont conduit à des drames dans la démocratie. Je le rappelle, c'était une période d'avant le directoire. Je peux faire un peu d'histoire. En même temps, quand on demande tout simplement au personnel d'une assemblée d'être en tenue, on respecte ce personnel par sa propre tenue.
Léa ?
Comment vous jugez le fait que votre homologue à l'Assemblée nationale, François de Régis, soit malmené par les députés quand il fait des rappels au règlement, soit sur les tenues, soit sur la présence en séance ? Est-ce que vous avez envie de le soutenir ou est-ce que finalement vous souriez depuis le palais du Luxembourg en vous disant...
Je le soutiens. En 2015, nous avons pris, vous le savez, un certain nombre de dispositions rendant entre guillemets, obligatoire la présence aux questions d'actualité, au vote solennel. Nous étions plus de 90% pour, quand même, un sujet très important cette semaine, le vote solennel sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas rien. Nos compatriotes vont devoir choisir s'ils souhaitent rester dans la République ou la quitter. Eh bien, il me semble normal, essentiel, que nous soyons tous là pour effectuer ce choix. Je pense que François de Rugy a du courage. Ça n'est pas facile. Moi, j'ai eu une méthode, c'est d'associer tout le monde à cette décision il y a maintenant près de 4 ans.
Une dernière question rapide. France Inter recueille en ce moment un bouquet de fleurs du joli mois de mai. Que faisiez-vous en mai 68, Gérard Larcher?
J'étais en classe préparatoire vétérinaire. Et dans le bouquet de mai, j'étais déjà un gaulliste. Vous savez, j'étais dans ce mouvement qui s'appelait l'UJP. J'étais un gaulliste dit de gauche. Mais en même temps, le général de Gaulle, il était impensable qu'on y touche. Donc j'étais de l'autre côté des barricades. Mais surtout, je révisais mes sciences naturelles pour tenter de devenir vétérinaire. Cette année-là, je m'y suis repris à 2 fois. Et je ne suis devenu étudiant vétérinaire que l'année suivante.
D'accord, donc pas le temps de faire la révolution.
Assez peu le temps, mais quand même, de gueuler en soutenant le général.
Gérard Larcher sur France Inter, restez avec nous.